Donc, c'est effectivement de Düsseldorf, Allemagne, que je suis connecté. C'est avec plaisir de savoir qu'il y a des personnes en Suisse, en France, en Afrique et peut-être ailleurs qui sont connectés. Donc, c'est un privilège. Je vais donc partager l'écran avec la présentation. Romains chapitre 8. Alors, c'est un privilège d'avoir été invité à Biblos pour la première fois. Merci donc aux organisateurs de m'avoir fait signe et de me confier ce chapitre, qui est bien sûr un très beau chapitre, un très grand chapitre, un chapitre un peu de victoire, mais aussi d'aboutissement des sept premiers chapitres, et pas seulement du septième, mais de toute la progression qui a été proposée dans tous les premiers chapitres des Romains. Et on aboutit un peu à ce chapitre 8 qui ne contient aucune presse, oui, aucune exhortation, qui est vraiment un chapitre à la fois de doctrine, mais aussi, on verra, d'encouragement très, très lumineux. Et j'ai repris un des titres des différents commentateurs que j'ai utilisé, La vie chrétienne, animée par l'esprit. Bon, je pense un bon résumé du chapitre. Les différents commentateurs, d'ailleurs, seront mentionnés tout à fait à la dernière page. Donc, il y a une bibliographie hein, que vous pourrez trouver en dernière page de la présentation. Alors, le premier que j'ai utilisé, c'est Monsieur McGee, que vous pourrez entendre soit en anglais dans ttb.org, avec son accent à couper au couteau, mais c'est délicieux parce qu'il parle très très lentement. Donc, quand on s'habitue. Ensuite, on profite beaucoup, mais il est traduit dans plus de 200 langues. Donc, si vous vous connectez sur ttb.org, vous aurez la Bible entière en 5 ans, et c'est extrêmement riche. Et sa façon de découper Romains nous donne une première vision un petit peu hélicoptère de l'ensemble de l'épître. Romains 1 à 8, ensuite 9 à 11 et 12 à 16. Donc, voilà. Un découpage très facile en trois parties. Et M. McGee aime beaucoup les titres qui commencent toujours par la même lettre. 1 à 8, le salut. 9 à 11, ségrégation, c'est-à-dire l'aspect juif, non-juif. Et puis 12 à 16, le service. Salut, ségrégation, service. Et si on va de nouveau à la troisième ligne, doctrine, 1 à 8, et on va terminer avec notre chapitre 8. Dispensation 9 à 11 avec toute la question des différentes économies de Dieu et en particulier la place d'Israël dans la pensée divine et puis le devoir, ce que nous avons à faire, doctrine, dispensation, devoir et puis aussi au milieu, foi, espérance puisqu'il y a tout cet aspect un peu prophétique autour d'Israël et amour, hein, le devoir, le service par amour. Donc un découpage très facile à retenir. Avec plein de moyens mnémotechniques, qui a l'avantage d'être simple. Et qui a l'avantage aussi de mettre clairement en avant que notre chapitre 8, eh bien, c'est l'aboutissement de toute cette première partie, c'est un peu le couronnement, le point culminant de cette première partie doctrinale qui explique le salut. Si on continue son étude à M. McGee, on voit qu'il fait un découpage en 11 parties de l'intégralité de l'épître. Alors, elle est intéressante, le découpage est intéressant en soi, et aussi parce que j'ai mis en gras ce qui concerne le chapitre 8, avec finalement deux grandes parties dans le chapitre 8. De nouveau, M. McGee aime bien les mots qui commencent tous par la même lettre, ça fonctionne assez bien en français avec le S, salutation. Péché, ça vient de sin, péché, salut, sanctification, les luttes, c'est le struggle du chapitre 7. Ensuite, le spirit-filled, c'est la vie remplie de l'esprit, toute la première partie de notre chapitre, la sécurité en deuxième partie. Et puis, on retrouve l'aspect ségrégation dont on a vu tout à l'heure, sacrifice et service, séparation et les salutations finales. Donc, un découpage de Romains. Superbe, en 11 parties, de nouveau moyenne mnémotechnique. On peut presque l'apprendre par cœur et le retrouver. Mais je voulais le mettre aussi parce qu'on a ces deux parties pour notre chapitre 8, la vie remplie de l'esprit et puis la sécurité du croyant. Ensuite, M. McGee continue avec plus de détails et il a l'idée de dire, eh bien, finalement, dans cette vie remplie de l'esprit, dans toute la première partie, il voit d'abord une nouvelle loi, hein, le Saint-Esprit, qui est une nouvelle puissance, une nouvelle loi. Il voit aussi une nouvelle lutte, un nouvel homme qui est maintenant fils de Dieu. Un peu plus loin, une nouvelle création, un nouveau corps. Et dans la partie sécurité, un nouvel objectif de Dieu qui nous garantit le salut et une nouvelle sécurité qui nous garantit justement la sécurité et aucune séparation. Ça, c'est déjà un petit peu plus compliqué, un peu plus fourni, et on peut être intéressé de regarder quels sont les autres découpages d'autres commentateurs. Alors, j'ai regardé son des Écritures, Marc Allauvent à l'abonné, la vie et la liberté des enfants de Dieu par l'Esprit. Là aussi, un très beau titre qu'on aurait pu reprendre, la vie et la liberté des enfants de Dieu par l'Esprit. Et cinq parties qui vont déjà, au fond, nous donner un parfum du chapitre entier. Au début, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Quel cri de victoire! Le Saint-Esprit habite en nous et rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Quelle promesse, quelle nouvelle situation, quel nouvel état civil. Un peu plus loin dans le chapitre, nous sommes encore dans la souffrance, mais nous attendons la délivrance de notre corps. Et puis tout travail pour accomplir le dessein de Dieu en grâce et en gloire. Et enfin, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus. Avec ce découpage, on a déjà une belle vision de Romains 8. J'ai aussi consulté M. Harrison dans un ouvrage intéressant où il commence d'abord par dire, attention, ne dites pas que Romains 8, c'est l'antidote de Romains 7. Non, Romains 8 reprend tout. Et reprend des références au chapitre 5 avec la justification et le fait que la condamnation soit ôtée, fait des références au chapitre 6 avec la liberté de la servitude du péché et de la mort, bien sûr, fait la suite du chapitre 7 en traitant le problème de la chair qui est maintenant résolu. Un chapitre 8 qui commence par l'instruction va s'élever dans la consolation quand il sera parlé de souffrance, d'intercession et de tout qui concourt à notre bien. Et puis culmine dans une joie confiante, dans la sécurité. Et M. Harrison fait ensuite un plan en trois parties, tout simple, libération par l'esprit de la loi du péché et de la mort. Ensuite, autre ministère de l'esprit, bon, qui est un titre un petit peu fourre-tout, évidemment. Et puis la sécurité et la permanence de la vie du racheté. Donc quand même, trois parties, c'est aussi agréable parce que c'est plus facile à retenir. Voilà ce que pense M. Harrison. Et puis, on a M. Benetro aussi. Lui aussi, trois parties, pas tout à fait les mêmes, hein, mais en les lisant, de nouveau, on a une bonne vision du chapitre. Non plus sous l'emprise de la chair, mais conduit par l'Esprit qui nous établit fils de Dieu. Là, bien sûr, il fait une grande partie un peu fourre-tout, mais ça dit ce que ça dit et son titre est long. Ensuite, l'esprit reçu n'est que les premiers prémices de la gloire à venir, et puis l'amour demeure. Et je termine par M. Wiersbe. M. Wiersbe, dans son commentaire aussi qui couvre la Bible entière, a trouvé que chapitre 8, c'était la déclaration de liberté des chrétiens. Et au fond, il nous dit, le chrétien, il est libéré du jugement, il n'y a plus de condamnation, il est libéré de la défaite. Il n'y a pas d'obligation de péché. On est libéré du découragement, pas de frustration par rapport à la souffrance, par rapport aux circonstances. Et puis libéré de la peur, pas de séparation. Ça, j'ai trouvé quand même, c'était très très beau. Très très beau. Mais j'ai quand même fait un autre plan, mais qui est très proche de tous les autres, évidemment. En cinq parties, aucune condamnation qu'on retrouve dans tous les autres, évidemment. L'habitation de l'esprit dans le croyant, des versets 9 à 11, et l'adoption. J'ai séparé l'adoption de l'habitation de l'esprit dans le croyant parce que je pense que c'est deux notions bien différentes, mais on verra aussi qu'elles sont liées. L'espérance de la gloire, la souffrance précède la gloire, ça on l'a de façon bien claire dans les versets 18 à 30, et puis le aucune séparation de l'amour de Dieu qui fait écho à aucune condamnation. Donc un chapitre qui s'ouvre sur aucune condamnation et qui se termine sur aucune séparation. Si on commence donc la lecture avec aucune condamnation, et bien sûr, le plus important, c'est la lecture. Alors, la façon dont je vais procéder, c'est qu'on va lire le texte, et ensuite, il y a d'autres transparents qui le mettent en relief, hein, où on entoure, on met des couleurs, on met des notes, un peu comme si on travaillait ensemble sur le texte. Donc, vous n'aurez pas du tout une présentation avec des chapitres, des sous-parties, etc. Vous aurez simplement du texte et des couleurs et des notes. Mais bien sûr, d'abord, le texte. Aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. En effet, ce qui était impossible à la loi, du fait que la chair la rendait sans force, Dieu, ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché et pour le péché, a condamné le péché dans la chair, afin que la juste exigence de la loi soit accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Aucune condamnation. Et ça commence donc avec un vocabulaire juridique. Parce que si vous regardez en bleu, condamnation, affranchi, la loi, condamné, juste exigence de la loi accomplie, on est dans un vocabulaire juridique. Et on commence par une déclaration un peu de liberté, une déclaration de justification, d'absence de condamnation. Et cette déclaration, donc d'aucune condamnation, s'apparente à un cri de victoire et de sécurité qui arrive, comme on l'a dit, en couronnement des sept premiers chapitres. Aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ et Jésus, car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi. Alors cette loi de l'esprit de vie, c'est l'intervention d'une nouvelle personne, grâce à une personne extérieure, la force étendue. Cette loi de l'esprit de vie, c'est s'apparente à ce que le Seigneur dit en Jean 6, c'est l'esprit qui vivifie. La chair n'est aucun profit. On a l'intervention d'une nouvelle personne, et cette personne, l'esprit de vie, me rend libre. Elle m'affranchit. Et le Seigneur Jésus l'a annoncé en Jean 8, 36. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Une personne intervient et nous donne la liberté. Et la liberté de quoi? Eh bien de cette loi du péché et de la mort. Cette loi ici du péché et de la mort, dans la traduction que j'ai utilisée ici, c'est avec un petit L, parce que on pense que c'est plutôt le principe, hein, les principes certains, réguliers, ben, comme les lois de la physique. Donc, ben, le péché produit la mort, c'est le cercle vicieux du péché et de la mort. Donc on est affranchi de ce cercle-là. Alors que l'autre loi, ça sera celle de Moïse. Si on continue la lecture, justement, en effet, ce qui était impossible à la loi, et là on peut penser que c'est celle de Moïse, du fait que la chair la rendait sans force. Alors la chair ici, on peut penser que c'est la nature humaine, pécheresse. Donc la loi de Moïse, eh bien, comme la nature humaine n'est pas capable de l'accomplir, elle était sans force. la loi nous donne la pensée de Dieu, mais la chair est totalement incapable de la suivre et donc il n'y a pas de force. On a besoin d'une force extérieure. Dieu, ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché, a condamné le péché dans la chair. Alors, j'ai mis en bleu parce que je ne l'ai pas mis dans la même couleur que la chair, ici, nature pécheresse, et un peu plus loin, nous qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit, parce qu'ici, on pourrait penser que c'est plutôt l'humanité. Chair de péché, c'est la condition humaine. Et le Seigneur n'a pas été fait chair de péché, puisqu'il était sans péché. Le vocabulaire est ici très précis. Il a été fait en ressemblance de chair de péché. Un vocabulaire très précis qui se rapproche de celui de Philippiens 2, verset 7. Jésus a été fait à la ressemblance des hommes. Il est fait en ressemblance de chair de péché, donc c'est un homme dont la chair, dont le corps, ressemble à celui des hommes. Et bien sûr, pour les hommes, c'est de la chair de péché au sens que c'est la nature humaine, l'état de l'homme. Et Dieu envoie donc son propre Fils en l'incarnant, avec l'incarnation, donc la ressemblance de chair de péché, son humanité, et il l'envoie pour le péché. Alors, il l'envoie pour le péché, ça veut dire qu'il est venu pour régler le problème du péché. Donc, il a envoyé son propre fils en ressemblance pour le péché, pour régler le problème. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a condamné le péché dans la chair afin que la juste exigence de la loi soit accomplie. Il a condamné. Alors, il n'y a plus de condamnation, on l'a vu en haut. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre a été condamné, et en étant condamné, eh bien la loi, celle qui est la base de la condamnation, est accomplie en nous. Voilà pourquoi j'ai mis trois fois la même couleur. Donc Dieu envoie son propre Fils dans son humanité, séparé du péché, mais ressemblant aux hommes pécheurs, pour résoudre le problème du péché. Et qu'a-t-il fait? Il a condamné le péché dans la chair, c'est-à-dire dans le corps d'un homme. La condamnation a bien été portée par un homme dans son corps d'homme. 1 Pierre 2, 24 précise, il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Donc, c'était quand il était sur la croix qu'il s'est chargé de nos péchés dans son corps. Dieu a donc condamné sur la croix, et on peut penser, c'était un autre sujet, mais on peut penser que c'était peut-être spécifiquement pendant les 3 heures sombres, qu'on appelle les 3 heures de l'expiation, il a condamné le péché dans la chair parce que le Seigneur Jésus avait été fait chair, afin que la juste exigence de la loi, donc de nouveau la loi de Moïse, soit accompli en nous. Pourquoi? Parce qu'il a été condamné, et c'est pour ça qu'il n'y a plus de condamnation. Afin que la juste exigence de la loi soit accomplie en nous, c'est-à-dire que la loi ne nous demande plus rien, tout est accompli, d'où notre libération totale, en nous qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. On a donc un nouveau guide, ce n'est plus la chair, mais l'esprit. Et l'esprit est mentionné dans ce chapitre 21 fois. 19 fois, on peut vraiment l'identifier au Saint-Esprit, plus 2 fois plutôt l'Esprit de l'homme. En tout, 21 fois dans ce chapitre. Quel contraste, par exemple, avec le chapitre 7, ou la deuxième partie du 7, où il y avait une quarantaine de fois le je ou le moi, où, bien sûr, le chrétien était un peu désespéré dans sa condition de chrétien, mais qui était quand même retourné facilement au péché, tourné vers soi, et là on a un nouveau guide, on a une nouvelle personne, une nouvelle puissance. Alors, en nous qui ne marchons pas selon la chair mais selon l'esprit, ce nouveau guide, cette nouvelle puissance, c'est bien sûr aussi le sujet de notre chapitre, de comprendre que cette nouvelle puissance nous délivre, nous libère, mais nous ne sommes pas débarrassés pour toujours de la problématique, hein, de la chair. Le principe mauvais de l'homme reste malheureusement en nous, mais nous avons une nouvelle identité et nous ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. On pourra bien sûr y revenir au moment des questions. Si on continue l'analyse de cette partie du texte, donc on n'a toujours pas changé de paragraphe, on s'aperçoit avec ces trois couleurs ici que la Trinité entière est impliquée dans cette œuvre, puisque on a l'Esprit de vie, on a Dieu qui envoie et on a son propre vie. Donc la Trinité entière est impliquée dans cette œuvre. Et c'est la même chose que l'on trouve dans Galates 4. Dieu a envoyé son Fils, né de femme, on retrouve l'incarnation, l'humanité, née sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, hein, on est de nouveau, enseignement très proche, afin que nous recevions l'adoption, ça c'est également très proche de ce que nous allons lire juste après. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans nos cœurs, criant Abba Père. Donc, Dieu, son fils et l'esprit sont impliqués dans cette œuvre de libération, de justification, et ici de libération et de vie chrétienne, de vie animée par l'Esprit. Et d'ailleurs, cette marche par l'Esprit est intimement liée à l'œuvre de Christ, depuis son incarnation jusqu'à sa mort expiatoire. Donc le fait, quand il est dit, nous qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'Esprit, donc nous marchons selon l'Esprit, voilà ce que ça dit. Eh bien, ce nous marchons selon l'esprit est entièrement lié à tout ce qu'on vient de voir, à l'incarnation du Fils, au fait que Dieu l'offre, Dieu le donne, et toute l'œuvre de la rédemption est la base de cette marche. On n'a pas un agenda séparé d'une marche avec l'esprit qui serait séparée de cette œuvre de la rédemption. C'est intimement lié à l'œuvre du Seigneur depuis son incarnation jusqu'à sa mort expiatoire. On continue maintenant la lecture. On a changé de paragraphe à partir du verset 5. On est toujours dans le chapitre Aucune condamnation. Car ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair. Mais ceux qui sont selon l'esprit, aux choses de l'esprit. Car la pensée de la chair est la mort, mais la pensée de l'esprit, vie et paix. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. En effet, elle ne le peut même pas. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Tout va bien au niveau de la technique. Marco, tout est en place, je vérifie. Oui, je pense. Hein.
Oui, nos problèmes, vas-y.
Tout va bien. Donc, versets donc 5 à 8, ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Alors, si on analyse un peu ce texte, ceux qui sont selon la chair, d'abord peut-être en vers, penser, 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 penser. Beaucoup de choses commencent dans nos pensées. Et là aussi, le bien, comme le mal, commence dans nos pensées, et c'est un enseignement déjà du discours sur la montagne du Seigneur Jésus, et repris plus tard, par exemple, dans Matthieu 15. C'est bien dans les pensées que tout commence. Donc, première leçon du texte. Deuxième leçon du texte, en fait, ce texte-là nous décrit ce que c'est que l'incroyant. Parce qu'en fait, ceux qui sont selon la chair ou qui sont dans la chair, eh bien, ce sont les incroyants. Ils sont dans la chair, c'est leur état, et ils sont selon la chair, c'est leur principe de vie. Donc, ils sont dans la chair, c'est leur état, séparé de Dieu, et puis, ils pratiquent ce que la chair, ce que la nature humaine, mauvaise, pécheresse, les pousse à faire. Donc, ils sont totalement dans ce cycle-là, et d'ailleurs, ils n'ont pas la vie, c'est la mort. Donc ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit. Donc quand on est selon l'esprit, eh bien on a une autre nature, on a une autre identité, on a une autre vie. Et on a la vie de Dieu. Car la pensée de la chair est la mort, mais la pensée de la vie est de l'esprit, vie et paix. Donc, contraste absolu, et on voit bien aussi toujours la façon dont il y a des parallèles dans ces textes. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, en effet, elle ne le peut même pas. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu, donc en bleu, inimitié, soumet pas, peut pas, peuvent pas. Il n'y a donc aucun espoir. Il n'y a aucune bonne surprise à attendre de la nature mauvaise de l'homme. Aucun espoir. Et il n'y a aussi aucune déception si nous péchons. Si le chrétien pêche, il n'est pas déçu. Parce qu'il n'y a pas de surprise. La nature mauvaise de l'homme qui peut le conduire à pécher, c'est un enseignement qu'on a déjà eu au début des Romains, évidemment, et qu'on continue à avoir ici, eh bien, il n'y a pas de surprise. Pas du tout de surprise, et donc pas de déception. Être déçu de soi, parce qu'on peut être tombé, on peut avoir péché, c'est avoir un peu confiance dans cette fameuse chair ou humanité pécheresse, comme si elle était capable. Mais elle ne l'est pas. Elle est inimitié. Elle ne se soumet pas. Elle ne le peut pas. Et quand on est dans la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Donc, séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Donc là, le Jean 15, bien sûr, s'adresse à des chrétiens pour dire, restez près de moi, parce que vous ne pouvez rien faire. Si vous êtes séparé de moi, en fait, vous ressemblez à quelqu'un qui n'a pas la vie. Séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, quelqu'un qui est séparé du Christ, il n'a pas la vie, il ne peut pas plaire à Dieu. Et si on reprend ces quatre points en bleu, là, la pensée de la chair, c'est la mort. Il y a l'inimitié, soumet pas, peuvent pas plaire. Donc, les quatre caractères de l'homme dans la chair, c'est qu'il est mort, il est ennemi. Il est insubordonné et il est incapable de plaire à Dieu, avec le peu même pas qu'on avait avant, et ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Donc, on est tout à fait rassuré parce que la situation est tellement claire que le Seigneur déclare à Nicodème, il vous faut être né de nouveau. Il faut une régénération. Il faut une nouvelle naissance pour régler ce problème-là. Mort, ennemi, insubordonné, incapable de plaire à Dieu, la seule solution, c'est être né de nouveau. Et donc, dans notre paragraphe 5 à 8, on a donc la description de l'homme qui n'a pas la vie, de l'homme qui est loin du Seigneur. Mais cette description nous est placée là. D'abord pour nous amener aux deux autres étapes qu'on va voir maintenant, mais aussi pour faire comprendre que les principes de la vie quand on est sans Dieu, eux, ils restent. Donc la nouvelle identité, la nouvelle puissance extérieure qui est donnée par l'Esprit, c'est elle qui va transformer toute notre vie, mais on n'est pas débarrassé du fait que par nature humaine, tant qu'on était loin de Dieu, eh bien, nos pensées étaient aux choses de la chair, et ça produit la mort, et on est insoumis, et on ne peut pas plaire à Dieu. On peut donc plaire à Dieu seulement par l'esprit et par l'action de l'esprit. Donc, on arrive à la deuxième partie, l'habitation de l'esprit dans le croyant, qui est donc la suite de notre lecture. Donc, on m'a dit qu'on ferait une petite pause à moins 5, ce qui fait qu'on va commencer cette partie. Deuxième partie, après ce cri de victoire, aucune condamnation, l'habitation de l'esprit dans le croyant. Parce que juste après le paragraphe que l'on vient de voir qui décrit l'incroyant, celui qui n'a pas la vie, eh bien on va voir le contraste. Or vous, verset 9, or vous, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'est pas de lui. Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels à cause de son esprit qui habite en vous. Or, vous, vous n'êtes pas. Donc, ça nous confirme bien, le or vous, vous n'êtes pas dans la chair mais dans l'esprit, confirme bien que le paragraphe précédent n'était pas destiné à décrire les chrétiens de Rome. Les chrétiens de Rome, vous, vous n'êtes pas dans la chair, mais vous êtes dans l'esprit. Alors, avant de venir à l'étude détaillée, d'abord, remarquons les cinq titres du Saint-Esprit dans notre passage. Au verset 2, nous avions déjà eu l'Esprit de vie. Et ici, nous avons l'Esprit de Dieu. Et puis, on découvre que c'est aussi l'Esprit de Christ. Et puis, c'est aussi l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, donc de Dieu, mais présenté comme puissance de résurrection. Et enfin, verset 15, il sera l'esprit d'adoption. Donc voilà cinq titres du Saint-Esprit dans notre chapitre. Notre chapitre aux 21 mentions de l'esprit, dont on avait dit 19 probablement, où c'est le Saint-Esprit dont il est parlé. Cinq titres. Et encore plus, on va dire, d'action ou d'intervention, puisqu'on verra qu'il intercède, etc. Qu'il atteste. Donc, c'est vraiment un chapitre absolument fondamental quand on veut étudier, quand on veut travailler, s'intéresser au sujet, bien sûr, du Saint-Esprit de Dieu. Un chapitre absolument fondamental pour cela. Si maintenant on revient à la lecture du texte, vous n'êtes pas dans la chair, donc comme on le disait, c'est la confirmation que être dans la chair signifie l'état non régénéré, donc qui n'est pas né de nouveau, non régénéré, mais vous êtes dans l'esprit. Et puis en bleu, alors, notre sujet, ou plutôt le titre, l'habitation de l'esprit dans le croyant. C'est extraordinaire. L'esprit de Dieu habite en vous. Christ est en vous. L'esprit habite en vous. L'esprit qui habite en vous. Donc, ces quatre mentions de la présence de l'esprit en nous et aussi Christ est en vous avec un peu cette identité du fait que c'est l'esprit de Christ Hein, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'est pas de lui. Mais si Christ est en vous, on voit que ce Christ est en vous, c'est avoir l'esprit de Christ. L'esprit de Dieu, donc, habite dans le croyant. Christ habite dans le croyant. Il est l'esprit de la résurrection. Il habite en vous. C'est donc un enseignement très fort qui est là. Et c'est un paragraphe qui est entièrement consacré au sujet de l'habitation, l'esprit dans le croyant. Et c'est pour ça que j'ai voulu lui faire une partie à part entière. Si. Voilà, le sujet de l'habitation de l'esprit dans le croyant est un enseignement qui est très développé. Donc on l'a dans notre paragraphe, 4 fois, et en fait on l'a à bien d'autres endroits du Nouveau Testament. Et c'est intéressant quand on a une doctrine de savoir où est-ce qu'on la trouve. On avait eu l'occasion récemment de présenter la scène et de s'apercevoir que la Sainte Cène, hein, le pain et le vin est mentionné 7 fois dans le Nouveau Testament et elle est mentionnée 3 fois dans les Évangiles, 2 fois dans les Actes et 2 fois dans l'Épître aux Corinthiens. Donc on a 7 mentions en tout, 3 dans les Évangiles, le fondement, 2 dans les Actes, l'histoire de l'Église, le récit historique et 2 dans une épître. En l'occurrence, Épître de Paul, donc un enseignement avec sept versets, 7 mentions dans les 3 grandes parties du Nouveau Testament. Voilà une doctrine très bien établie, très enracinée dans le Nouveau Testament. Eh bien, le sujet de l'habitation de l'Esprit dans le croyant, c'est la même chose. Il est dans les Évangiles, Jean 14, par exemple, mais aussi Jean 16. Le Père vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, il demeure auprès de vous et il sera en vous. L'Évangile nous annonce cette doctrine fondamentale. Les Actes, la partie historique du Nouveau Testament, nous montrent par exemple au moment peut-être de l'ouverture de l'Église aux gens des nations, avec Corneille. Hein? J'ai pris Acte 10, mais on aurait pu prendre d'autres passages. Comme Pierre parlait encore, l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui entendaient la parole. Et les croyants de la circoncision, donc les Juifs, tous ceux qui étaient venus avec Pierre, mais furent stupéfaits de voir que le don du Saint-Esprit était répandu aussi sur ceux des nations, car ils les entendaient parler en langue et magnifier Dieu. Voilà, l'Évangile et les Actes. Et puis, Épître de Paul, maintenant la doctrine. Notre Épître aux Romains, qu'on vient de voir, mais par exemple aussi 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu? Et que vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été acheté à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Et il n'y a pas que Paul, même les autres épîtres, Jacques et par exemple Pierre, nous donnent un enseignement sur le fait que le Saint-Esprit demeure en vous. Ici Jacques, quiconque voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Ou bien pensez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui demeure en nous, désire-t-il avec envie? Et puis encore un autre auteur, donc on a Jacques, on a Pierre, on a Paul. Si on vous insulte pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Donc, on a une doctrine, un enseignement qui est très largement développé dans le Nouveau Testament et qui est bien sûr extraordinaire.
Alors,
Non, bah.
Frédéric, bonsoir à toi de ma part. Si tu es d'accord de prendre quelques questions maintenant avant la pause,
Ah, on peut, oui.
on a 3 questions qui sont venues pendant que tu as fait cette première partie de présentation. par le petit onglet QNR qui se trouve au bas de l'écran, comme on a souvent l'occasion de le préciser, et dans lequel vous
Oui.
pouvez poser vos questions. Et alors, on a une première question. D'abord, Samuel, remercie pour la présentation.
Oui.
J'aimerais savoir si le chrétien qui marche selon la chair est aussi affranchi de la loi du péché et de la mort. Est-ce que le chrétien qui marche selon la chair est aussi affranchi de la loi du péché et de la mort?
Alors, c'est intéressant parce que on pourrait penser qu'il y a une petite contradiction. Celui qui est affranchi, c'est justement celui qui ne marche pas selon la chair. Donc, le fait d'être affranchi, c'est le fait d'être libre. Et quand on est libre, on ne marche pas selon la chair au sens que notre principe de vie, notre moteur dans la vie, notre force dans la vie, ben c'est justement pas la chair. Donc on peut tomber, c'est un autre sujet, on peut tomber. Mais le fait d'être affranchi, ce qu'on appelle l'affranchissement, qui est notre passage, aucune condamnation, affranchi, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, c'est justement ne pas marcher selon la chair. Et si on tombe, eh bien on se relève. Le juste tombe sept fois et se relève. Mais ça ne met pas en cause le fait que si je suis affranchi, c'est justement que ben, je n'ai plus rien à faire avec cette marche selon la chair. Ensuite, Sylvain,
Oui,
oui, vas-y.
c'est très bien. Merci pour cette réponse. Oui, après, on a la question de Sylvain. Comme les versets 5 à 8 décrivent les incroyants, le fait de s'affectionner bien souvent plus aux choses de la chair qu'aux choses de l'esprit doit-il nous poser question? Autrement dit, pourquoi la conduite par l'esprit ne nous est pas plus naturelle après la régénération?
Tout à
Merci,
fait.
Sylvain.
Merci. Donc, en tout cas, il ne faudrait bien sûr pas que ça crée un doute, et on va parler de l'assurance du salut maintenant, dans la suite du chapitre. Le fait d'être attiré par les choses de la chair ou d'avoir l'impression d'y retourner trop souvent dans nos vies ne doit pas, bien sûr, nous créer le doute en se disant, oh là, mais alors c'est que j'ai pas la nature de Dieu, sinon. Et si on est dans tout ce questionnement-là, on retombe un peu dans ce qu'on avait vu dans le chapitre 7. Pourquoi maintenant la conduite par l'esprit n'est pas plus naturelle? Alors si, elle est tout à fait naturelle, c'est la suite tout à fait naturelle, et je crois que j'utilise même le mot naturel plus tard dans la présentation, donc c'est la suite tout à fait naturelle de cette régénération. Mais il y a une immense discrétion, un immense tact, un immense respect dans la façon dont l'esprit aussi nous conduit. C'est-à-dire que il y avait une servitude de la loi, il y a une servitude de la chair du péché, et le Saint-Esprit ne nous invite pas à une servitude. Et il nous invite à une liberté. Et avec la liberté, évidemment, il y a la discrétion qui fait qu'on n'est pas forcé. Donc on n'est pas tenu par la nuque et par le Saint-Esprit qui va nous forcer à vivre une vie pleine et remplie. C'est une vie d'amour, c'est une vie de relation. Comme dans un couple, on n'est pas forcé à s'aimer, mais on s'aime et on se respecte et on fait grandir la relation. J'essaie de faire des réponses brèves. Donc la suivante, c'est...
Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il
Il
ne
ne lui appartient
appartient
pas.
pas, il ne lui appartient pas, j'imagine. Comment doit-on comprendre ce verset? C'est la personne qui n'appartient pas à Christ ou bien l'esprit de Christ qui ne lui appartient pas?
Alors, on va venir à ça. On va venir à ça. On va y arriver. Donc, normalement, il y aura réponse par rapport à ça, le fait d'avoir l'esprit ou bien l'esprit qui m'a. Donc, ce sera deux étapes qu'on va voir avec. Notre premier paragraphe, c'était que quelqu'un qui n'avait pas l'esprit. Maintenant, on était dans la partie de l'habitation. Et puis après, on aura l'aspect fils. Donc, on va en parler.
Et puis on a une dernière suggestion de Jean-Paul. Peux-tu dire quelques mots sur l'expression du verset 1 dans le Christ Jésus? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus.
Voilà, alors, non, je pense, enfin, être dans le Christ Jésus, ça va être synonyme d'être dans l'esprit. Hein, comme on l'a vu dans la lecture, au moment où on est passé au verset 9. Vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'est pas de lui. Mais si Christ est en vous, on a, je pense, vraiment une identité au fait que c'est qu'être dans l'esprit, c'est être dans le Christ Jésus. Et donc, voilà, personnellement, mais c'est peut-être à revérifier ou à retravailler, mais je ne ferai pas de nuance ici. Quand on est dans l'esprit, on est dans le Christ, c'est l'esprit de Christ. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ n'est pas à lui. Si je suis dans l'esprit, je suis dans le Christ. Et si le Christ est en vous, etc.
Merci beaucoup, Frédéric, pour ces réponses, cette présentation. Tu as beaucoup travaillé. On va te laisser une pause, comme aussi à nous, nos auditeurs.
À tout de suite.